et il est 19h30 à Kinshasa et à Paris, 18h30 en temps universel. Et vous êtes à l'écoute de Radio France Internationale.
Afrique Soir sur RFI.
Et oui, c'est à présent l'heure de retrouver toute l'actualité africaine. La première édition d'Afrique Soir de ce jeudi vous est présentée par Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Après Kinshasa, le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, est à Kigali. Une démarche diplomatique visant à désamorcer la crise dans l'est de la RDC. Nous ferons le point sur la situation à Goma, principale ville de l'est de la RDC, où est entrée ces derniers jours la rébellion du M23 soutenue par Kigali. La Belgique demande à l'Union européenne de sévir contre le Rwanda. Et c'est dans ce contexte de tension que s'ouvre demain le sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Une édition largement consacré à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Un tabou a été brisé après le rapport de la Commission sur le rôle de la France au Cameroun dans la répression des indépendantistes entre 1945 et 1971. Quelles sont les conséquences de cette reconnaissance tardive? Doit-on s'attendre à des réparations? Ce sera le dossier d'Afrique Soir. Le sport et le grand oral en Suisse pour les prétendants au fauteuil de patron du CIO, le Comité international olympique. 7 candidats, parmi lesquels l'ancienne nageuse du Zimbabwe, Kirsty Coventry, double championne olympique 2004 et 2008. Enfin, à suivre la sélection musicale toujours très attendue d'Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Voilà pour le sommaire. Mais d'abord, le Tchad, où la rétrocession de la troisième et dernière base militaire française a eu lieu ce matin. Il s'agit de la base d'Hadji Kossé à N'Djamena. Les 180 derniers militaires ont quitté le sol tchadien dans la journée et cela marque la fin effective de la présence militaire française au Tchad. Bonsoir Nadia Ben Mahfoud.
Bonsoir Sylvie Berruet.
Et c'est un communiqué de l'état-major de l'armée tchadienne qui a annoncé la rétrocession de cette base ce matin.
Une cérémonie en petit comité entre militaires français et tchadiens s'est déroulée loin des caméras ce matin au sein même de la base. Le général Daoud, chef d'état-major général des armées du Tchad, et le général Pascal Yanni, à la tête du commandement pour l'Afrique de l'armée française, ont pris la parole. Le drapeau français a ensuite été baissé. La clé de la base a été rendue. Puis les procès-verbaux de transfert ont été signés par les deux généraux. Cette rétrocession, je cite, vient boucler définitivement la présence des forces françaises au Tchad, et cela conformément à la volonté des hautes autorités tchadiennes, a précisé le directeur de communication de l'armée dans un communiqué publié dans la matinée. C'est donc la dernière des trois bases militaires françaises qui a été aujourd'hui rendue aux Tchadiens. Les deux autres, celles de Faya et d'Abéché, ont été rétrocédées respectivement les 26 décembre et 11 janvier dernier, après un coup d'envoi donné par le départ des avions de combat Mirage 2000 de N'Djamena début décembre.
Et après ce départ express des forces françaises du Tchad, quel avenir pour la coopération entre les deux pays?
Eh bien, de sources militaires françaises, les deux armées se quittent bons amis après, je cite, de nombreuses années passées à combattre côte à côte. Les Français attendent désormais de savoir ce que souhaiteront les autorités tchadiennes. D'autres formes de coopération sont possibles, précise cette même source militaire, comme de la formation ou encore de l'entraînement, et cela désormais dans le cadre de missions ponctuelles uniquement, ce qui n'exclut pas, en cas de demande formelle des autorités tchadiennes, un appui au combat, notamment lors d'opérations conjointe. Toujours côté français, on affirme cependant que ce départ du Tchad marque, je cite, la fin d'un modèle ancien, celui d'une présence militaire permanente sur le continent. Reste à savoir maintenant la nature du nouveau partenariat que les autorités tchadiennes souhaiteront instaurer. Le président Mahamat Idriss Déby avait fait savoir qu'il souhaitait réorienter la coopération avec la France vers des domaines qui favorisent l'intérêt du peuple tchadien.
Et sur ce sujet, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno prendra la parole demain depuis la base d'Hadji Kossé. Ce sera lors d'une cérémonie officielle. Vous écoutez RFI, c'est Afrique Soir, 18h35 en temps universel. Et on en vient à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de la diplomatie française a entamé ce matin une mini-tournée dans la région. Bonsoir Pierre Fersion.
Bonsoir Sylvie.
Jean-Noël Barrot était à Kinshasa ce matin, où il s'est entretenu avec le président Tshisekedi. Et il a ensuite rallié Kigali en fin d'après-midi.
Oui, la capitale rwandaise où il doit s'entretenir avec Paul Kagame. Quelle sera la teneur de son message? Selon son entourage, Jean-Noël Barrot va demander le retrait des troupes rwandaises de l'est de la RDC. Cette demande demande avait déjà été formulée samedi par Emmanuel Macron lors de l'entretien téléphonique avec le président rwandais. Mais depuis, il y a eu cette offensive éclair du M23 et des troupes rwandaises sur Goma. Et Paris semble vouloir hausser le ton. Ce jeudi, Christophe Lemoine, le porte-parole du Quai d'Orsay, a appelé les forces rwandaises à, je cite, quitter instamment la République démocratique du Congo. Et le M23 a, ouvrez les guillemets, se retirer immédiatement des territoires dont il a pris le contrôle. Et Christophe Lemoine d'ajouter, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC ne sont pas négociables. Avant cette étape rwandaise, Jean-Noël Barrot s'était rendu à Kinshasa pour un entretien avec Félix Tshisekedi. La rencontre a duré un peu plus d'une heure. Le président congolais lui a fait part de son analyse de la situation dans l'Est et a réitéré ses regrets suite à l'attaque mardi contre l'ambassade de France à Kinshasa. Cette démarche diplomatique s'inscrit, selon Paris, en soutien au processus de médiation de Luanda et de Nairobi.
Oui, et pendant ce temps, dans l'est du pays, la vie reprend doucement dans la ville de Goma, chef-lieu du Nord Kivu, alors que le M23 et les troupes rwandaises ont pris position dans la plupart des quartiers. Bonsoir Alexis Guilleux.
Bonsoir Sylvie.
Et après plusieurs jours de combat, de nombreux habitants qui étaient terrés chez eux sont finalement sortis, soit pour se ravitailler, soit pour s'enquérir de la situation.
Oui, sur la route principale Kadindo-Ndosho, dans l'ouest de Goma, on pouvait voir aujourd'hui des centaines d'habitants marcher, des motos étaient également de sortie, plus nombreuses qu'hier, des bus de transport en commun aussi, dans lesquels sont montés des passagers. Sur cet axe, quelques rares commerçants ont même ouvert leurs boutiques. Dans le centre-ville de Goma, en revanche, les magasins et les banques sont restés fermés ce jeudi. L'activité a également repris à la Grande Barrière. On pouvait voir aujourd'hui davantage de mouvements de voyageurs dans ce poste frontalier entre la RDC et le Rwanda. Plus de monde, plus de trafic, donc une douce reprise de l'activité. Mais dans les rues de la capitale provinciale, les traces du conflit sont encore visibles, magasins pillés, vitres cassées, des cartouches jongent le sol à côté des faits militaires, des vêtements et des véhicules abandonnés sur place. Des éléments du M23 sont également visibles par petits groupes sur des ronds-points de la ville. Le groupe armé et des troupes rwandaises, vous l'avez dit, ont pris position dans la plupart des quartiers de Goma. Et ce jeudi, le M23 a par ailleurs tenu sa première conférence de presse dans un grand hôtel de Goma. Le groupe armé, soutenu par le Rwanda, a réaffirmé ses objectifs. Dernier point, Sylvie, sur la situation à Goma. En début d'après-midi, l'électricité est revenue dans quelques quartiers de la ville. L'accès à l'eau et à Internet reste toujours très difficile.
Et j'ajoute que l'ONU se dit très inquiète de la situation volatile, je cite, dans le sud Kivu, dans l'est de la RDC, en particulier d'informations crédibles de l'avancée du groupe armé M23 vers Bukavu. Une déclaration ce jeudi du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarry, qui évoque également des informations faisant état, je cite toujours, de mouvements des forces de défense rwandaise à travers la frontière dans cette direction. Fin de citation. Et dans son allocution qui était très attendue hier soir à la télévision nationale, premier discours depuis l'offensive des rebelles du M23, soutenu par le Rwanda sur Goma, le président Tshisekedi a appelé à l'unité et à la mobilisation, condamnant les attaques qui ont ciblé mardi plusieurs chancelleries occidentales, accusées de complaisance envers Kigali. Le président a fustigé la communauté internationale. Votre silence et votre inaction face à la barbarie du régime de Kigali et aux atrocités commises, a-t-il dit, constituent un affront non seulement à la RDC, mais aux valeurs universelles de justice et de paix. Un sentiment partagé par de nombreux Kinois. Alexandra Banjon.
Place des Évolués, dans le centre de Kinshasa, un fonctionnaire fait part de sa colère face à une guerre dans l'Est qui dure depuis trop longtemps, dit-il, mais également face à une communauté internationale qu'il accuse de se voiler la face.
La communauté internationale porte des œillères. Elle sait ce qui se passe. Elle le sait pertinemment. Les rapports sont là. Ils sont étayés. Mais qu'est-ce qui est fait ? Rien. C'est ça qui fait mal. Je suis en colère. Mais alors, une colère sérieuse. C'est pas normal.
Un peu plus loin, un groupe de jeunes avocats discute. Eux aussi partagent ce sentiment d'injustice et d'abandon évoqué par le chef de l'État, même s'ils condamnent les violences contre plusieurs chancelleries lors des manifestations de mardi.
Nous exigeons aussi l'attention de la communauté internationale. Les silences soient brisés. Il faut que la communauté internationale agisse. Sinon, nous allons considérer qu'ils sont tous complices. Ils voient les Congolais qui sont morts et personne n'en parle.
Je ne comprends pas pourquoi l'ONU ne sanctionne pas le Rwanda pour son soutien à la rébellion, alors qu'elle l'a fait pour la Russie qui a envahi l'Ukraine, ajoute l'un d'eux. Il y a clairement deux poids, deux mesures, conclut-il. Alexandra Branchon, Kinshasa, RFI.
Et cet appel a-t-il été entendu à Bruxelles? En tout cas, la Belgique veut que l'Union européenne sanctionne le Rwanda. Le Premier ministre et le ministre des Affaires belges et des Affaires étrangères se sont exprimés officiellement. C'était au Parlement cet après-midi. Pierre Benazé.
Devant la Chambre des représentants ce jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo demande formellement au Rwanda de mettre un terme à son soutien au M23. Il martèle que l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo doit être respectée. Il juge inacceptable les violences dans l'Est. Le ministre des Affaires étrangères Bernard Quintin va plus loin. Il révèle avoir demandé aux autres pays de l'Union européenne leur aide en faveur de la RDC face à Kigali. Les débats ont eu lieu lundi et mardi, d'abord avec les autres ministres des Affaires étrangères, ensuite entre les 27 ambassadeurs au COPS, le comité politique et de sécurité de l'UE. D'autres capitales européennes confirment que la Belgique a en quelque sorte demandé à ses partenaires le maximum vis-à-vis du Rwanda. Il faut utiliser tous les leviers pour un impact significatif, estime Bernard Quintin. Il s'agirait de suspendre d'abord le dialogue sécuritaire, puis le versement au Rwanda de 20 millions d'euros pour sa mission militaire de lutte contre le terrorisme dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, et enfin de suspendre l'accord UE-Rwanda sur les matières premières critiques. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Et c'est dans ce contexte de tensions diplomatiques que s'ouvre demain un sommet extraordinaire des chefs de la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, initialement prévu ce jeudi au Zimbabwe. Il a donc été décalé à demain, vendredi. Et cette réunion se prépare sur fond de règlement de compte entre le Rwanda et l'Afrique du Sud, dont l'armée est présente sur place. Claire Bargelès.
Des soldats sud-africains sont engagés à la fois au sein de la MONUSCO, mais aussi dans la force de la SADC, qui a pris le relais sur la force de la communauté d'Afrique de l'Est. L'intensification du conflit a conduit à une passe d'armes entre Pretoria et Kigali par prise de parole et publication sur les réseaux sociaux interposés. Jusqu'à présent, les deux chefs d'État échangeaient pourtant par téléphone, mais dans un post sur X véhément, le président rwandais Paul Kagame a pris à partie son homologue Cyril Ramaphosa, accusant les soldats de la SADC, sous commandement sud-africain, de ne pas être une force de maintien de la paix, mais l'un des belligérants. Des critiques réitérées par le ministre rwandais de la coopération régionale pour qui Pretoria combat aux côtés des forces génocidaires des FDLR. Dans la presse locale, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères sud-africain affirme que les canaux diplomatiques restent ouverts, alors que le ministre se disait inquiet hier de la possibilité d'une guerre régionale et n'a pas hésité, plus tôt dans la semaine, devant l'Union africaine, à appeler Kigali à retirer ses troupes de RDC. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Yaoundé, 105.5 FM.
C'est la fin d'un tabou. Le rapport de la commission initiée par Emmanuel Macron sur le rôle de la France au Cameroun dans la répression des indépendantistes et de l'opposition entre 1945 et 1971 a donc été remis à Paul Biya. Il est désormais accessible à tous en ligne sur un site internet officiel. Et il y est écrit, noir sur blanc, que la France a mené une guerre totale, une guerre de décolonisation au Cameroun, ce que dénonçaient déjà des chercheurs et des nationalistes camerounais. Alors, quelle suite donner à cette étape cruciale? C'est la question qui se pose dans le pays, Amélie Tulé.
Anissé Ekané, président d'Humanidem, attendait ce rapport avec défiance. Il appréhendait une manœuvre de l'État français pour se disculper à la tête d'un parti qui se revendique de l'héritage des indépendantistes camerounais de l'UPC. Il perçoit les conclusions des membres de la commission comme une étape, certes, mais une étape insuffisante. Pour lui, il faut maintenant que l'État français fasse œuvre de repentance, présente des excuses, s'engage à dire officiellement sa responsabilité dans les massacres et ouvre la voie au versement de dommages et intérêts. Pour Mathias Eric Owonanguini, professeur à l'université de Yaoundé 2, ce rapport est une avancée, mais pour une bonne partie de l'opinion publique camerounaise, il ne suffit pas de reconnaître qu'il y a eu une guerre de décolonisation, il faut en tirer les implications morales, politiques et juridiques. Lui aussi parle d'excuses attendues de la part de la France et de la nécessaire possibilité pour les victimes et leurs descendants d'ouvrir des procédures de demande de réparation. À partir du moment où la France aura clairement assumé ses responsabilités, dit-il, il sera plus facile pour les composantes camerounaises d'assumer les leurs.
Et le qualitif de guerre pour désigner ce qui s'est passé au Cameroun avait déjà été avancé par des chercheurs, notamment les auteurs du livre Cameroun paru en 2011. Et pour Thomas Deltombe, l'un des auteurs, la parution de ce rapport marque donc une étape et ne sera plus possible de le nier, explique-t-il. Il répond à Florence Maurice.
C'est une étape, hein, clairement, dans la connaissance de ce conflit, une étape positive. Évidemment, pour des chercheurs, hein, qui ont passé comme nous des années, des années, des années sur cette question, il y a c'est une petite frustration parce que il y a toute une série de nouveautés dans les détails, mais assez peu de nouveautés sur l'essentiel du dossier. La question qui se pose ensuite, c'est quel est l'usage qui en est fait, à la fois dans la communauté scientifique. Là, je pense qu'on peut faire confiance aux universitaires pour creuser, débattre autour de ces travaux. La question de l'utilisation politique qui est faite de ces rapports est plus problématique.
Quelle suite alors politique devrait être donnée selon vous ?
Vous savez, beaucoup d'observateurs expliquent que la politique mémorielle d'Emmanuel Macron est moins historique que politique finalement. Il parlait en mai 2021 d'un plan de reconquête, c'est son expression, hein, de l'opinion publique africaine, à un moment où, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle un sentiment anti-français en Afrique. Et il nous semble, nous, que ce rapport s'inscrit dans ce plan de reconquête, espèce de volonté de soft power français en Afrique. On pense en tout cas que depuis longtemps, les responsables politiques français auraient dû prendre position sur cette question. Et au lieu de nommer des commissions, il ferait mieux, au lieu de casser le monde de l'université et de sous-financer les recherches académiques, ferait mieux d'investir massivement dans la recherche historique pour que ce type de dossier ne reste pas enfoui pendant des décennies et qu'on fasse semblant de les redécouvrir des décennies plus tard, une fois que toutes les victimes de ces violences ont disparu.
Est-ce qu'une reconnaissance par la France de sa responsabilité serait quand même une avancée ? Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à des réparations ?
La reconnaissance, elle va venir de fait. Emmanuel Macron, en 2022, en annonçant la commission, parlait déjà de guerre, avant même que la commission soit montée. Donc, de fait, il y a une reconnaissance de cette guerre, de cette violence. Bon, très bien. Ensuite, est-ce qu'on reconnaît simplement la guerre ou les conséquences de cette guerre, c'est-à-dire l'installation d'un régime autocratique à Yaoundé qui n'a pas disparu. En réalité, Paul Biya était déjà conseiller à la présidence du Cameroun dans les années 60. Donc, il y a une véritable continuité. Est-ce que cette continuité va être connue aussi. Pour ce qui est des réparations, là, je pense que c'est plutôt aux victimes de ce conflit de s'exprimer. Malheureusement, la reconnaissance est si tardive, plus de victimes directes, il n'y a plus que un pays entier qui a été victime de ces atrocités.
Thomas Deltombe avec Florence Maurice. C'était un temps fort de la campagne pour la présidence du CIO, le Comité international olympique, qui va changer de patron le 20 mars. Les 7 prétendants au fauteuil ont passé leur grand oral hier à Lausanne devant les membres du CIO, mais à huis clos, pour présenter leur projet pour l'organisation. 5e par ordre de passage, l'ancienne nageuse du Zimbabwe, Kirsty Coventry, double championne olympique en 2004 et 2008. Au CIO, depuis 2013, elle a présenté ses projets et défendu sa candidature, le tout dans un temps limité. À Lausanne, Christophe Diremzian.
La Cour a suivi le ministère public et seulement
15 minutes, pas une de plus, pour convaincre, se démarquer et définir ses priorités. Mieux soutenir financièrement les athlètes, notamment africains. Kirsty Coventry l'a mise en haut de sa liste car elle parle d'expérience.
Durant ma carrière, ça a été facile d'obtenir des partenaires dès que j'ai eu une médaille. C'était obtenir cette médaille qui était dure. Donc j'ai parlé de programmes qui aident les athlètes à devenir des Olympiens, mais aussi qui les aident à l'issue de leur carrière et sur la façon dont nous pouvons utiliser notre large réseau pour optimiser leur avenir.
Ministre des Sports du Zimbabwe, membre de l'exécutif du CIO, présidente de 2 commissions de coordination de Jeux Olympiques, et tout ça en étant maman pour la 2e fois fin 2024, et alors, tout est question d'organisation.
Quand j'ai commencé à être ministre, j'étais enceinte de ma première fille. J'ai dû vite apprendre à être une femme avec une carrière, une mère et une épouse. Et c'est faisable. J'ai eu le soutien de ma famille. J'ai toujours réussi grâce à une bonne équipe, et ça continuera.
Et ne lui dites pas quelle est la favorite de Thomas Barr, l'étiquette est à décoller.
Nous partageons une philosophie et des idées, mais pour cette élection, il a choisi de ne pas voter. Et je crois fermement qu'il est équitable envers tous les candidats.
Si la plus jeune des prétendantes en course doit devenir la première femme à la tête de l'institution, elle veut l'être pour ses qualités et son expérience, même si le symbole serait fort. Christophe Diremzian, Lausanne, RFI.
Vous écoutez RFI, 19h49, ici à Paris, à suivre ce soir sur votre radio.
Afrique Soir sur RFI, Sylvie Berruet.
Accent d'Europe nous emmènera en Espagne. La région de Valence remet lentement des inondations qui l'ont frappé fin octobre. Elles ont fait 232 morts. Les enfants reprennent peu à peu le chemin de l'école. Enseignants et psychologues aident les plus touchés à surmonter le traumatisme. Au collège, des espaces de parole leur permettent de raconter leurs expériences. José Julio Molina, directeur du collège de Sedaví, au sud de Valence.
Certains expliquaient comment ils avaient passé la nuit seuls avec leurs frères parce que les parents n'arrivaient pas à rentrer. En vérité, quand ils racontaient leurs histoires, ça donnait la chair de poule. Encore aujourd'hui, j'ai parfois envie de pleurer. Et maintenant, eh bien, certains sont encore marqués. On a des enfants qui ont la phobie de la pluie, par exemple, et qui ne veulent plus du tout sortir quand il pleut.
Et puis ce soir également, Couleur tropicale avec une émission spéciale consacrée aux 10 finalistes du prix Découverte RFI 2024. Et lui s'est fait connaître grâce à ses musiques de téléfilms et de feuilletons du Ramadan. Taha Nouri, âgé de 30 ans, jeune artiste marocain, compose, écrit, il interprète une musique inspirée d'un patrimoine vieux de plusieurs siècles, le Maloun, une poésie populaire du Maghreb qui se chante en dialecte. Taha Nouri a remis cette tradition au goût du jour, Mathias Reynal.
Tout est parti d'une chanson pour la promotion du téléfilm Tlata del Farat du réalisateur Driss Sawab. Nous sommes en 2021.
C'était le Marbot. C'était une reprise de Cheikh Mouizo. Et une reprise à ma manière. Tu sais, j'ai pris la chanson, j'ai changé des affaires, j'ai laissé que le refrain. J'ai ajouté des couplets à ma sauce un peu jeune. Après Ramadan, j'ouvre mon Facebook, t'as comme 3000 personnes qui veulent t'ajouter et c'est fou.
En reprenant une vieille chanson du répertoire Malhoun, en apportant juste ce qu'il faut de modernité, Taha Nouri a conquis le public marocain.
Le Malhoun, c'est une poésie d'abord. Okay, c'est une poésie en arabe dialecte, en derija. J'essaie de garder l'âme de la tradition marocaine, mais en la rendant un peu universelle.
Et le succès de Taha Nouri dépasse les frontières du Maroc. Sous les vidéos du jeune artiste, on lit des commentaires venus de tout le monde arabe. Son plus gros hit, pour l'instant, Belhéda, 35 millions de vues sur YouTube. Taha Nouri ne se contente pas de faire des reprises du Malhoun, il continue à explorer ce style musical avec ses propres compositions, ses propres textes.
En fait, j'ai toujours ce commentaire sur YouTube. Le monde me dit « Elle est où la chanson originale ?» Je dis « Non, c'est une chanson originale. » Parce que j'utilise les mêmes manières de faire, en fait. C'est ça mon identité maintenant. Je pense que c'est comme si je suis un traveler dans le time qui vient de, je sais pas, c'est ça ce qui intrigue le monde et qui trouve ça fascinant.
Avec à son compteur un EP, Eli Eli, et plusieurs singles, Taha Nouri se lance dans un nouveau projet, la préparation d'un album.
C'est mon premier album, donc je veux me présenter avec un vrai album, avec une histoire, avec une trame. Il n'y a que 3 chansons qui sont finalisées, donc je suis toujours dans la recherche. Je vais essayer de mélanger d'autres styles, un peu de gnawa.
Mathias Reynal, Casablanca, RFI.
Et on enchaîne avec l'arrivée de l'ambianceur d'Afrique Soir. De retour dans ce studio après son escapade en Guinée, c'est bien sûr Hervé Mandina, alias DJ Facemaker. Bonsoir Hervé.
Bonsoir Sylvie, toujours là quand il faut détendre l'atmosphère.
Et dans un instant, nous allons découvrir votre sélection musicale. Mais d'abord, vous avez pu vous entretenir avec le ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, Moussa Moïse Sylla, en marge de votre séjour à Conakry, pour le concert de l'artiste Jupiter Davaibe, qui avait lieu le 25 janvier.
Et oui, j'ai demandé au ministre de la Culture, Moussa Moïse Sylla, les projets sur lesquels il travaille en priorité au sujet des artistes.
Au niveau de la culture, nous avons travaillé par exemple sur les avant-projets de loi portant sur le statut de l'artiste. C'est une première dans notre pays. Tous les acteurs qui rentrent en ligne de mire de l'activité sont pris en compte par un projet de loi porté par le gouvernement guinéen. Vous avez également l'avant-projet de loi qui a porté sur les métiers du cinéma, de la vidéo, de la photographie qui vont permettre aux 7e A guinéens de sortir de leur niais et d'occuper la place qui leur revient de droit parce que la Guinée a été un pays pionnier dans le domaine du cinéma. L'un des premiers films de l'Afrique subsaharienne vient de Guinée. Il s'agit de Moramani qui date de 1953, bien avant l'accession de notre pays pays à sa souveraineté nationale et internationale.
Et j'ai essayé d'en savoir plus sur ce volet, particulièrement le recensement et la redistribution des droits d'auteur, qui est un des chantiers du ministre de la Culture en Guinée.
Au niveau du Bureau guinéen des droits d'auteur, il y a un travail de numérisation qui a commencé. Les perceptions qui se font au niveau des établissements qui payent pour le droit d'auteur, ces perceptions se font par le biais du cash. Et souvent, les déperditions sont énormes. Nous avons mis en place un logiciel interne, un mécanisme interne basé donc sur le numérique qui nous permet de dématérialiser complètement toutes ces perceptions.
L'entretien avec le ministre guinéen de la Culture, Moussa Moïsila, bientôt disponible sur notre site internet rfi.fr. À présent, Hervé, vous remettez votre casquette de DJ, celui de DJ Facemaker, pour laisser place à la musique avec le rappeur sénégalais Elzo Jamdong.
Oui, Elzo Jamdong effectue un retour très remarqué en ce début d'année 2025 avec la sortie du clip officiel de son titre Biffé, une composition différente de ce à quoi il nous avait habitués. Et pour ceux qui ne parlent pas Bambara comme vous, Sylvie, Biffé signifie je t'aime. Et c'est évidemment une chanson centrée sur le thème de l'amour.
Chérie boy bi fe boy bi fe ñewal ci man param param lena la am gëné lan da tam bëgel bi ñewon ci man chérie boy bi fe ñewal ci man param param param
kul wax ak mom bu ko jégué sax xana giso sama jamara mère na ma way téré wul mu na ma na ma pul ma sam na ma ci apparence apparence xam ni kul toñ rek ma dégué né Get an all against the baby boogie dead. Yo, y'a me tal, rec ma décolle. Lampe rouge de ma ferene. Fou ma guest to gisle, de ma tempe triste. Bugge next again, so my destiny. De ma vexe fils, so my latex n'y a vu. Stay next to me. Kiko katoy na la deferal. My neck of mom, fiba abadan. Chak na vis na tundak mom, sama ajana. Ajana, khana giso. Ajana, hey.
Nena la am gane lan.
Et voilà présent le moment que l'on attend tous, Hervé, la séquence rétro du jeudi, avec aujourd'hui le rappeur français Doc Gynéco, souvenez-vous, et son titre Nirvana.
Oui, un titre extrait de l'album Première Consultation, sorti en 1996. Et rendez-vous compte, il va avoir 30 ans l'année prochaine, et pourtant ses mélodies, ses textes n'ont pas pris une ride. Bruno Bossir, alias Doc Gynéco, a marqué toute une génération des années 90, décennie où il a su s'imposer grâce à son groove, ses lyrics d'une qualité inégalée et son style insolent. Boum.
Je sors de chez moi, hey, salut mon gars. Tu sors de prison, dis-moi comment ça va. Tu veux que je t'enregistre les nouveaux sons. Le dernier ministère et la première consultation. Tu veux être à la page avant de rejoindre l'entourage de ceux qui boivent du 12 ans d'âge. Prisonnier du quartier, pris dans la fonte. Plus rien ne m'étonne, plus rien ne me fait bander. Depuis que j'ai la tête collée sur une pochette, certaines font semblant de ne pas me reconnaître. D'autres me guettent, sans tête, m'embêtent. Alors je les baisse, ah ouais. Et tout est si facile quand on marche dans sa ville. Même les bleus pour moi sont en civil. Je veux changer d'air, changer
d'air. Que de souvenirs avec le Doc Bruno, l'un des surnoms de Doc Gynéco. Et c'est déjà le moment de conclure, mon cher Hervé. Vous avez déniché pour nous le dernier morceau du chanteur rwandais Kevin Kade en duo avec le Tanzanien Ali Kiba.
Oui, Richard Ngabo pour l'état civil et Kevin Kade sur la scène. Le sixième d'une fratrie de 7. Il n'aura que 25 ans cette année avec de bien grandes ambitions pour sa carrière. Il s'est associé à la star tanzanienne Ali Kiba qu'on entend ici pour signer le morceau Bébé qui groove plutôt pas mal. Allez, c'est parfait pour se dire au revoir, je trouve, aujourd'hui.
Nijeni kuchukue Iwari pesa uzangu mali Baby uko wapi Uko wapi Natamani
Natamani Kevin Kade du Rwanda, que l'on referme cette page musicale certifiée Afro Club dans la sélection, est déjà disponible.
Oui, et pour cela, il suffit de vous rendre sur rfi.fr dès à présent. Et quant à moi, je serai de retour à ce micro mardi. Vous serez là, Sylvie?
Je reviendrai juste à temps pour la séquence rétro. Ce sera jeudi prochain.
Alors à jeudi, et j'en profite pour saluer Fatoumata Touré qui nous écoute, auditrice fidèle.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème de demain.
Dans notre émission Questions de femmes, un spécialiste à votre écoute pour mieux comprendre les troubles et maladies de la thyroïde. Quels symptômes, quels traitements?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Demain sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
C'est la nouvelle sensation du rap camerounais Uzi Freya, alias Kelly Rose. Elle sort un premier album détonnant, Bellies Don't Cry, qui s'adresse à l'enfant resté en elle et qui est aussi un cri contre les préjugés. Elle nous en interprétera deux titres en live.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.